Voilà, nous allons commencer un sujet qui va nous prendre 3 séances. Le thème, c'est si les hommes se taisent et Pierre vont crier. Nous allons lire dans Luc 19 le contexte d'où est sortie cette phrase. Luc 19, à partir du verset 28. Luc 19, à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi le détachez-vous ? » Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule, dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Voilà. Ce message est en même temps une sorte d'avertissement nous concernant, nous les enfants de Dieu. Le Seigneur dit, si ses disciples se taisent, si les hommes qui l'ont reconnu comme le Messie se taisent, les pierres vont crier. Et nous étions dans un contexte où ces gens-là avaient reconnu Jésus comme le Messie. Et l'ayant reconnu comme le Messie, ils ne voyaient pas d'autre chose à faire que de mettre leurs vêtements au sol. Parce que le Messie, c'est le Sauveur, c'est le Roi, le Fils de Dieu. Donc, il n'y avait pas pour eux d'autre option que de s'humilier ainsi, mettre leurs vêtements au sol pour que le Messie marche dessus. C'est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et cette louange, adoration, a gêné les religieux de l'époque. Ils se sont dit, mais ce n'est qu'un homme. Pourquoi on doit lui vouer une telle révérence? Jésus dit, mais ça, c'est un exemple de la vraie adoration qui m'est due, de la vraie louange. D'ailleurs, même si eux ne le faisaient pas, les pierres peuvent le faire. Nous sommes dans une fausse image de Dieu comme quoi il a besoin de nous et que sans nous, il ne peut rien. Ah, c'est vraiment très, très faux. Dieu a ses plans. Il a ses plans. Non seulement qu'il a ses plans, Dieu est glorieux. Comment expliquer la gloire de Dieu? Donc, la gloire de Dieu, c'est comme de l'eau qui bout dans une marmite. Donc, il suffit, si la marmite est fermée hermétiquement, ça va la pression va continuer à augmenter. Et si le trou prévu pour dégager la vapeur ne joue pas son rôle, la marmite peut exploser. Parce que la pression va continuer à augmenter. La gloire de Dieu, c'est la même chose. Dieu est tellement glorieux que ça fait comme une pression dans l'univers. Et cette gloire, c'est pourquoi beaucoup de gens, par exemple, se posent la question, mais pourquoi Dieu a créé tant de choses grandes? Parce qu'on voit que quand on doit compter le nombre d'étoiles dans notre galaxie, ça fait 100 milliards. Et il y a 100 milliards de galaxies. Mais restons même déjà sur Terre. Quand on voit la multiplicité des arbres, des feuilles, des sortes de fleurs, des sortes d'animaux, mais les gens disent, mais pourquoi tant de choses? Mais parce que Dieu est glorieux et sa gloire doit se manifester. C'est comme de la vapeur qui bout, qui bout, qui bout. Ça doit se dégager. C'est comme ça. Il est comme ça. Donc on ne peut pas le changer. Il est glorieux. Et c'est pourquoi, lorsque le trou prévu pour faire le boulot ne fait pas, la gloire de Dieu sortira ailleurs. La vapeur sortira ailleurs. C'est ça la réalité. La vapeur peut sortir, soulever le couvercle. Si le trou prévu pour sortir la vapeur ne fait pas son boulot, le couvercle va être soulevé. La gloire de Dieu jaillira. C'est ce que Jésus leur dit. Jésus dit, je suis glorieux. Donc je mérite la louange et la gloire. Si vous ne exprimez pas ça, si les disciples n'expriment pas ça, les pierres vont l'exprimer. Et j'ai en partie reçu ce message quand j'étais dans l'avion et que je portais toujours ma veste où c'est écrit Jésus t'aime. Et j'avais un problème de siège et j'en avais fait part à un steward. Il m'a dit, ben, vous attendez que tout le monde entre et puis je vais vous chercher, je vais vous trouver peut-être un siège. Et quand tout le monde est entré, ne le voyant pas venir me voir, je suis parti carrément voir le chef de cabine. Et pendant qu'il m'expliquait que c'était difficile, il y avait peu de place, le steward que j'avais vu, il vient, il me dit, non mais monsieur, je ne vous avais pas oublié, je vous ai trouvé une bonne place. Et le chef de cabine qui me dit, vous voyez, Jésus vous aime. Voilà, tout était fait. Alors, donc quand il a dit ça, j'ai dit, voilà, ça m'est venu à l'esprit, si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui n'étaient pas prévus vont glorifier Dieu. Si ceux qui étaient prévus ne le font pas, s'ils font des chichis, croyant qu'ils sont indispensables, croyant qu'ils sont importants, parce qu'aujourd'hui, comment est pris l'adoration au Seigneur? Comment est pris la louange au Seigneur? Comme il y a beaucoup de faux serviteurs, il y a beaucoup de gens qui se disent pasteurs et qui ne sont pas appelés, ils ont transformé les choses en clientélisme, c'est-à-dire qu'ils présentent les choses de Dieu comme quelque chose, comme si c'est Dieu qui avait besoin des gens. Et si les gens viennent à Dieu, ils auront quelque chose en retour. Donc les gens sont devenus fiers. Ils viennent à Dieu, mais avec des airs. Ils viennent à Dieu, mais avec une certaine suffisance. Et ils ne peuvent pas adorer Dieu, ils ne peuvent pas vraiment servir Dieu parce qu'ils sont suffisants, ils sont là, neutres. Et ils vont dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous donner d'intéressant? Aujourd'hui, c'est comme si c'est Dieu qui a besoin d'eux. Non, Jésus dit, j'ai pas besoin de vous. C'est vous qui devez me glorifier parce que je suis glorieux. C'est vous qui êtes bénis. C'est vous qui êtes honorés. Et donc Jésus dit, d'ailleurs, si vous le faites pas, c'est les pierres qui vont prendre la place. C'est un avertissement pour nous dire, attention, si Jésus ne prend pas la place de louange, d'adoration dont il est digne dans nos vies, attention, d'autres prendront cette place-là. Des gens non prévus prendront cette place. De toute façon, la gloire de Dieu se manifestera. Notre problème, c'est quoi? C'est qu'on se dit, mais ça fait un moment que nous sommes dans le Seigneur, mais nous ne voyons pas toujours ce qu'il a prévu, ce dont il parle dans la parole. Et on finit par minimiser le Seigneur. Et on finit par avoir une relation d'égal à égal. Ah non, Jésus nous avertit, attention, il y a toujours eu ce genre de réaction. Quand on lit l'histoire d'Israël, il y a toujours eu ce temps-là où Dieu semblait inexistant au milieu du peuple. Mais Dieu, à chaque fois, leur a montré qu'il était glorieux. Il y a eu toujours eu, quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, Gédéon lui dit, mais nous sommes tristes. Tu dis que tu es là, mais où tu es puisqu'on est esclaves, on souffre. Donc comprenons que ce que nous vivons n'est pas nouveau. Que nous semblions traverser un désert, c'est pas nouveau. Le peuple d'Israël a traversé des déserts, a connu des temps d'esclavage, a connu tous ces temps-là. Mais à chaque fois, Dieu un jour s'est manifesté glorieusement, de sorte que c'était clair qu'il était tout puissant. Mais le problème, c'est que il ne faut pas louper cela. Le temps où ça va arriver, il ne faut pas que tu fasses partie des gens oubliés de Dieu. Il ne faut pas que le temps où la gloire de Dieu va se manifester, tu fasses partie des jaloux qui vont regarder pour dire, mais c'est quoi? Parce que dans Actes des Apôtres, c'est dit clairement, les pharisiens jaloux des apôtres. Ils étaient témoins, leur peuple était pris par les apôtres. Ils perdaient le pouvoir. Jaloux! Parce que Luc 7:30 nous dit quoi? Luc 7:30. Nous allons lire ça. Luc 7:30. Luc 7:30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, c'est-à-dire par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu. C'est clair, hein? Les pharisiens et les docteurs de la loi, Luc 7:30, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rendu nul le plan de Dieu en leur faveur. Parce qu'à un moment donné, ils ont voulu jouer aux indépendants, aux hommes religieux, aux hommes forts. Et ils ont rendu le plan de Dieu nul. Parce que Dieu a envoyé Jean-Baptiste afin que tout le monde soit baptisé. Et ils ont refusé. Ils ont dit, mais ce n'est pas ce petit-là qui va nous baptiser. Nous, les professionnels de la religion, nous, les docteurs de la loi, ce n'est pas ce petit-là qui va nous baptiser. On l'a vu naître. Il est habillé en poil de chat, d'animaux, en peau d'animaux. C'est lui qui va nous faire, qui va nous baptiser. Parce que celui qui te baptise est en quelque sorte supérieur à toi. Il dit non. Or, c'était ça le plan de Dieu. Vous savez, Dieu a toujours changé des gens. Lorsque les premiers ne comprenaient pas. Il l'a toujours fait. Hein. Dans 1 Roi 13, il y a l'histoire d'un vieux prophète et d'un jeune prophète. Le vieux prophète pensait que c'était lui qu'on pouvait utiliser pour de telles missions. On ne l'a pas utilisé. On a utilisé un jeune prophète. Certainement, le vieux prophète avait déjà perdu la voix de Dieu. Il était devenu un professionnel de la religion. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? C'est que ce n'est pas que nous le servions dans une logique de religion, et c'est ce qui se fait aujourd'hui, où les gens se disent, il ne faut pas que je fasse ceci, il ne faut pas que je fasse cela, il ne faut pas que je fasse ceci, il ne faut pas que je fasse cela, il faut que j'aille prier. Donc ils ont une liste de choses à faire, quand ils ont fait toutes ces choses-là, ils se disent, c'est bon, je suis un bon chrétien. Ah non, le Seigneur sait qu'il veut, c'est disposer de nous. Il dit, si ces gens-là se taisent, les pierres vont crier. Le Seigneur veut disposer de nous. C'est ça qui est important pour lui. L'adoration, la louange, le vrai service chrétien, c'est que le Seigneur dispose de toi. Ce n'est pas que tu fasses bien les choses. Dans Exode 19, 5 à 6, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, toute la terre m'appartient. Je vous ai mis à part pour faire de vous un royaume de sacrificateurs. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car, Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Maintenant, si vous écoutez ma voix, on peut bien fermer le rideau, voilà, tirer le rideau. Voilà, on s'empêche. Oui, oui. Vous m'appartiendrez et vous serez une nation sainte. Les termes sont clairs. Hein? Vous serez pour moi, vous m'appartiendrez. Ce que Dieu attendait, c'est que on lui appartienne. Maintenant, quand il a donné des lois, c'était des lois qui permettaient d'expérimenter le fait que j'appartiens à Dieu. Parce qu'il y avait des lois que tu pouvais plus ou moins comprendre par rapport à leur utilité. Mais il y avait des lois, par exemple, on ne t'explique pas pourquoi il faut sacrifier un oiseau pour tel cas, mettre telle quantité de farine pour tel sacrifice. C'est juste fait pour dire que tu fais ce que je te dis. Mais les gens n'ont pas compris à quoi servait la loi. Ils ont cru que c'était pour marquer leur pureté. Non, c'était pour marquer leur obéissance. Je fais ce que Dieu dit parce que je suis à lui. Comme nous, par ailleurs, je peux décider d'aller me laver avec mes chaussures de ville, d'entrer dans l'eau avec, mais les chaussures ne vont pas dire, ah, attention, c'est fait pour aller dans les bureaux des ministres. Ah non, non, c'est mes chaussures, j'en fais ce que je veux. Voilà. Jamais le vêtement va parler. Et même quand on a pris l'âne, l'âne n'a pas parlé. Ce sont ses maîtres qui ont parlé. L'âne s'est laissé prendre. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il dit, vous m'appartiendrez, vous serez à moi. Les lois, elles étaient données pour marquer cette appartenance. J'obéis parce que j'appartiens à quelqu'un. Mais nous, nous obéissons pourquoi? Pour, comme, vous savez, les gens qui doivent aller dans une fête, on dit, on appelle ça le code vestimentaire, ça sera telle veste, couleur, voilà, code de couleur. Alors, tu t'habilles pour être accepté. Mais Dieu dit non, tu t'habilles, puisque tu es à moi, je t'habille comme je veux. Voilà les lois qui sont données. Et il y avait certaines lois qui pouvaient énerver, mais tu te dis, mais c'est le chef qui a donné. Vous savez, c'est l'enseignement que Dieu voulait que les enfants d'Israël comprennent. Vous m'appartenez. Et le terme appartenir continue même dans le Nouveau Testament. On va y revenir. Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, c'est écrit, vous avez été rachetés à grand prix, vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au Seigneur. Le Seigneur dit, rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Vous êtes à Dieu. Il dit, sur cette pièce, c'est l'image de qui? On dit, mais c'est l'image de César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César. Mais vous aussi, vous êtes une pièce. N'a-t-on pas dit que, n'est-il pas écrit que nous avons été créés à l'image de Dieu? Oui. Donc la pièce que nous sommes à l'image de Dieu. Jésus dit, de même que la pièce de monnaie doit être rendue à César, parce qu'elle a l'image de César, vous, les humains, vous êtes la pièce créée par Dieu, à l'image de Dieu. Rendez cette image à Dieu. Ce n'est pas à vous. Rendez-la à Dieu. Mais non, nous gérons notre vie. Le Seigneur ne dispose pas. Et vous savez, le Seigneur voulait que tous les enfants d'Israël soient des sacrificateurs. Mais comme ils ont géré leur vie, il a diminué. C'était maintenant les Lévites. Et dans les Lévites, il a encore diminué. C'était juste les descendants d'Aaron. Donc, il ne faisait que diminuer. Et pour entrer dans le lieu très saint, il diminue encore. C'était juste le souverain sacrificateur. Vous voyez comment il diminue? Parce qu'à chaque fois, les gens ne saisissent pas ce que lui veut en profondeur. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui appartienne. Il dispose de nous. C'est ça la première étape. Quand nous disons, si les hommes se taisent, les pierres vont crier, eh bien Jésus veut dire, mais si les hommes ne se laissent pas utiliser par moi pour manifester ma gloire, je vais utiliser d'autres hommes qui n'étaient pas prévus. Je vais utiliser même des pierres s'il le faut. Ma gloire, elle est puissante, elle doit jaillir. C'est comme les geysers. Les geysers, c'est des vapeurs d'eau dans les milieux volcaniques. Il y a des vapeurs sous le sol, ça finit par trouver un trou et sortir. Même si c'est fermé, il y a des vapeurs sous le sol, ça finit par trouver un trou, ça sort. C'est ça la gloire de Dieu, ça cherche un trou pour sortir. Et lorsque les trous prévus sont bien fermés, Dieu va trouver d'autres trous. Et malheureusement, c'est nous qui allons pleurer. Vous voyez comment dans Exode 19 c'est écrit, on descend, on arrive jusqu'au souverain sacrificateur. Et quand l'apôtre Paul vient, qu'est-ce qu'il dit dans Actes 28:28? Il n'y a pas que lui qui dit ça, il y a même Esaïe qui dit ça, mais bon, je prends les actes des apôtres pour prendre un peu de Nouveau Testament. Acte 28, il dit, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Voilà. Normalement, c'était au peuple d'Israël de tout faire. Dans Exode 19 qu'on vient de lire, Dieu dit que toute la terre lui appartient, c'est-à-dire tous les peuples sont à lui Dieu. Et il a choisi le peuple d'Israël pour être son messager, son témoin, sa gloire, au milieu de tout le peuple du monde, afin que tout le peuple du monde vienne à lui Dieu. Israël a été choisi comme l'évangéliste de Dieu. Je veux mettre ma gloire sur toi, mais parce que tu dois m'appartenir pour que cette gloire-là jaillisse clairement. C'est là la condition. Pour que la gloire de Dieu jaillisse, la louange de Dieu jaillisse, on doit lui appartenir. Et quand tu m'appartiens comme ça, comment on peut savoir que tu m'appartiens? Je te donne un ensemble de lois. Obéis à ces lois-là dans l'esprit de m'appartenir. C'est ainsi que tu seras pour moi un peuple de sacrificateurs. Mais le peuple n'a pas compris. Le peuple a cru que c'était de la religion comme les autres religions. Il a fait comme les autres religions et Dieu a dit non, je diminue encore. Et jusqu'au point où, même quand le Messie arrive, ils ne saisissent pas. L'apôtre Paul dit, puisque vous ne voulez pas, Dieu va utiliser d'autres personnes. Et vous allez tomber dans la jalousie. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu nous a utilisés alors que nous n'étions pas prévus dans le calcul. On a vu Moïse s'entêter. Dieu lui dit, va parler. Il s'entête. Je ne sais pas parler. Dieu lui dit, mais c'est moi qui ai créé la bouche. Il fait un moment, il accepte un moment. Après, il revient encore vers Dieu. Mais tu sais que je ne pourrais pas parler. Là. Dieu dit ça. Trop, c'est trop. Je prends quelqu'un d'autre. Ton frère Aaron va parler. Toi, tu vas lui donner les instructions, c'est lui qui va parler. Bien-aimé, quand vous lisez Exode, nulle part, Aaron n'était pas prévu. C'était Moïse et Dieu. Mais Moïse n'a pas voulu laisser à Dieu le contrôle de son vie, de sa vie, le contrôle total. Il a dit, ah non, je te donne tout. Mais ce qui concerne le fait de parler, je ne pourrai pas. Dieu lui dit, mais c'est moi qui ai créé la bouche. Ah, mais non, là, Dieu dit, d'accord. Puisque tu ne veux pas honorer cela, je vais prendre quelqu'un d'autre. Bien, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu conflit entre Moïse et Aaron. Parce que Aaron aussi parlait. C'est ça le problème. Mais lui n'était pas prévu pour parler. C'était à Moïse de parler et de tout faire tout seul. Mais puisqu'il ne s'est pas laissé appartenir à Dieu à 100%, tel que Dieu le voulait, Dieu a pris Aaron et Dieu avait prévu de travailler avec le peuple d'Israël seulement, afin qu'il nous éclaire tous et que tous nous venions à lui. Mais puisque ils n'ont pas accepté d'appartenir à Dieu, de vivre en appartenance à Dieu, Dieu a pris d'autres personnes. Et je suis en train de donner cet avertissement encore aujourd'hui. Si nous ne laissons pas le Seigneur prendre le contrôle de nos vies, faire fonctionner nos vies, Dieu va prendre d'autres personnes. C'est ça, mais au fait, ne nous méprenons pas sur Dieu. Dieu est tout puissant. Ce que nous voyons là est comme un désert dans lequel nous sommes. C'est comme un désert. Le jour où Dieu sonnera de la trompette, les choses changeront. Nous sommes comme dans un désert. Pourquoi? Parce que les gens ont transformé les choses de Dieu en quelque chose de commercial. Les gens ont transformé les choses de Dieu en quelque chose de scientifique. Alors Dieu a fermé les écluses des cieux jusqu'à ce qu'il y ait une vraie repentance pour que nous revenions à la vérité. Et là, il va redéverser à nouveau sa gloire. Il veut le faire pleinement avec un canal qui lui est propre. Mais Dieu n'attendra pas indéfiniment. De la même manière, il n'a pas attendu indéfiniment que Moïse dise « Oui, je pourrais parler. » Moïse s'est entêté, il a pris Aaron. Le peuple d'Israël s'est entêté, il a pris que les Lévites. Ils se sont entêtés, il a pris que les sacrificateurs, les descendants d'Aaron. Et finalement, que le souverain sacrificateur. Et par la suite, il a pris les païens comme nous, les gentils, les non-prévus, les non-juifs. Il ne va pas attendre indéfiniment. Dieu attend que son peuple lui réappartienne à nouveau. Quand on prend l'exemple de l'âne, on voit que l'âne ne discute pas. On le prend. Il se laisse faire. Les gens veulent discuter. Les apôtres disent, c'est le Seigneur qui en a besoin. Est-ce que ces gens-là ont rétorqué? Non. Ils se sont tus. C'est pour nous dire quoi? Il viendra des jours où Dieu décidera que les pierres crient, c'est-à-dire des enfants, des vieillards, des gens non prévus, des gens qui étaient chez eux, qui vont sortir en disant « J'ai vu le Seigneur ». Aujourd'hui, ça se passe déjà dans les milieux islamiques où des gens reviennent dire « Je donne ma vie au Seigneur » en prenant tous les risques de mort. Mais là où les gens attendent, le Seigneur attend que les gens entrent dans cela, ils n'entrent pas. Ils sont devenus trop sérieux, ils sont devenus très suffisants, ils font les choses de Dieu avec calcul. Il n'y a pas la spontanéité de l'appartenance. Parce que si tu appartiens à quelqu'un, c'est cette personne-là qui décide qu'est-ce que tu dois faire. Mais lorsque nous calculons, nous faisons ceci, cela, ça veut dire que nous gérons nous-mêmes. Il n'y a pas l'appartenance. Donc nous allons lire un texte très important qui nous parle de cela, dans Jean chapitre 3. Ça va être notre point de la première séance, la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, on voit l'histoire de Nicodème. Nicodème, un docteur de la loi. C'est écrit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Amen. C'est le verset qui m'intéresse le plus. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il est poussé par le vent de Dieu, sans savoir où il va exactement. Ça ne veut pas dire qu'il fait les choses au hasard. Non. Quand le vent le saisit, là, il sait là où il va. Mais il ne le savait pas avant. Le vent, l'Esprit le conduit. Mais de sorte que, vous savez, comme la musique c'est quoi? C'est du son. Mais le son, c'est quoi? C'est un mouvement de molécules d'air. Donc, c'est ce mouvement-là qui produit le son. C'est le vent, la musique. Mais il y a quelqu'un qui oriente cette musique-là. De sorte qu'après, on entend quelque chose de beau. Eh bien, le Seigneur dit, ben, quelqu'un est né de nouveau, Dieu va le pousser comme du vent, afin qu'il produise une bonne musique qui va glorifier son Créateur. Et c'est Dieu qui fait la musique. Ce n'est pas toi qui fais la musique, c'est lui qui fait la musique. Et Dieu en a marre que les gens lui obligent leur musique. Dieu veut faire sa musique. Il dit à Nicodème, vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Vous êtes des docteurs, mais vous ne comprenez rien. Vous pensiez que la loi c'était pourquoi? Comme une sorte de diplôme universitaire. Il dit non. C'était pour vous apprendre à appartenir à Dieu, que vous êtes son peuple, qu'il doit vous gérer. C'est comme le vent, il lui donne l'exemple. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Le vent de l'esprit doit changer votre mentalité et vous saisir et vous conduire. Votre mentalité doit être changée par un miracle divin. Puisque la loi n'a pas pu vous changer, vous n'avez pas compris par la loi. Mais c'est un miracle, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Aujourd'hui, bien-aimés, nous n'avons plus besoin qu'un texte. L'application d'un texte nous change. Non, non, non. C'est un miracle qui vient de Dieu. Nous, on a besoin de faire un choix. Le choix suivant. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, accomplis ton miracle de nouvelle naissance en moi, que je ne gère plus ma vie. C'est toi qui gères ma vie. C'est ce choix qu'on doit faire. Mais le miracle vient du Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'avant, c'était à toi de te produire ton miracle par la lecture des textes. En lisant, c'était à toi de te soumettre. Tu produisais ainsi ton miracle. Mais Jésus dit à Nicodème, maintenant c'est l'Esprit qui va le faire. Mais il y a un choix à faire. C'est que votre mentalité doit devenir celle de Dieu. Comment Dieu vous comprend les choses, c'est ça que vous devez prendre comme mentalité. Et là, l'Esprit vous fait naître de nouveau. Comprenez que ce que Dieu veut, c'est vous utiliser et produire de la musique avec vous. Et c'est cette musique qui va faire que tous les peuples seront sauvés. C'est cette musique qui va faire que les gens verront la gloire de Dieu. Bien-aimés, comprenons que le Seigneur ne nous a pas attendus pour manifester sa gloire. Il a fait les étoiles, les belles plantes. Déjà, tout ça manifeste sa gloire. C'est nous qui sommes honorés. Alors, venir dans les choses de Dieu comme si Dieu avait besoin de nous. Nous avons besoin, notre présence va faire que la réunion va être bonne. On se trompe. C'est nous qui venons puiser chez lui. C'est nous. C'est pourquoi, bien-aimés, moi, je ne demande jamais aux gens de venir dans les réunions. Je ne demande pas tout ça. Ils sont informés. Je dis, c'est nous qui sommes bénéficiaires. Ce n'est pas le nombre. Je peux prêcher devant deux personnes. Parce que c'est moi qui suis bénéficiaire de la présence de Dieu, de l'obéissance. Je suis là où Dieu m'attend. C'est ça qui importe pour moi. Que le vent m'amène où il veut. Il y a des gens qui vont dire, mais vous m'invitez, mais vous êtes au nombre de combien? Mais non, mais c'est l'invitation de Dieu. C'est Dieu qui nous invite tous à manifester sa gloire. Aujourd'hui, sa gloire peut être comme cachée parce qu'il y a des choses à changer dans l'Église universelle. Mais il y a un temps, et c'est cela que je suis dans ce temps-là où j'avertis tout le monde que le temps s'approche où Dieu va nous enjamber parce qu'on n'a pas saisi et va produire un nouveau peuple, comme il a toujours fait, des gens qui vont être pris comme des fous. Est-ce que vous pensez que les pierres étaient bien considérées dans leur famille? Dans Luc chapitre 5, c'est écrit, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Est-ce que vous trouvez normal que vous venez de faire une pêche miraculeuse? Vous abandonnez cette pêche miraculeuse et vous suivez Jésus les mains vides. Tout le monde va vous prendre pour qui? Pour des fous! Mais aujourd'hui, quel chrétien va faire ça? Trop de raisonnement, trop de logique. Et les gens qui vont dire, il faut être sage. Non, mais la sagesse, c'est suivre Dieu. C'est ça la sagesse. C'est suivre Dieu. Ils abandonnèrent tout et ils suivirent le Seigneur. Les pierres étaient mal vues dans leur famille. Ils avaient des femmes et des enfants. Ils ont eu à suivre Jésus pendant 3 ans. Tout en rencontrant leur famille sporadiquement. Mais aujourd'hui, qui peut faire ça? On va te dire, ah oui, mais il y a l'éducation des enfants, mais bien-aimés. Dieu sait tout ça. Et je ne suis pas non plus en train de négliger la présence du Père, parce qu'après, ils sont retournés à leur famille. Mais c'est que Dieu décide, à un moment donné, il s'occupe de boucher les trous lui-même. Ce qui semble illogique pour l'homme, Dieu s'occupe de ça. Si c'est lui qui a pris la décision. C'est très important que le peuple de Dieu lui réappartienne. Il a dit à Nicodème, ce que vous faisiez avant, c'était du bricolage. Maintenant, c'est la nouvelle naissance. C'est Dieu qui doit vous saisir et jouer la musique sur vous. Ce n'est pas à vous de décider, je vais à gauche, je vais à droite, je fais ceci, je fais cela. Non, le Seigneur doit vous saisir et vous conduire. Vous devrez maintenant le laisser conduire votre vie. Il doit vous appartenir. Vous devez lui appartenir. C'est très, très important. Le Seigneur veut nous ramener à sa volonté profonde qui est de se servir de nous pour manifester sa gloire. Mais il nous dit, attention, si vous ne le faites pas, si vous ne vous disposez pas, si vous ne vous mettez pas à ma disposition, je vais utiliser des pierres. Je vais utiliser des gens imprévus. C'est ainsi qu'il est écrit, certains derniers seront des premiers et certains premiers des derniers. Et il y a plein de textes bibliques, puisqu'on a 3 séances, on va les lire, qui nous montrent à la fois l'avertissement du Seigneur, mais à la fois c'est son désir profond de partager sa gloire avec nous. C'est nous qui sommes honorés de partager sa gloire. Mais notre problème, c'est que comme nous ne voyons pas encore de grands exploits, nous finissons par négliger le Seigneur. C'est ça le problème. Mais nous ne sommes pas les premiers. D'autres avant nous ont négligé le Seigneur puisqu'ils ne voyaient plus les grands exploits. Le Seigneur ne va pas transformer la terre en paradis pour faire des miracles chaque jour. Même Jésus dit, du temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux, mais il n'a guéri que Naaman le Syrien. Il n'a pas guéri tous les lépreux. Ce n'était pas une fête tous les jours, 2 lépreux qui guérissent, non. Dieu veut qu'on obéisse parce qu'il est glorieux, il est tout-puissant, parce qu'il nous a fait, il s'est fait connaître à nous. Maintenant qu'on le connaît, on obéit. Il n'y a pas de conditions à exiger que nous soyons tout le temps dans une forme de fête paradisiaque sur terre pour pouvoir servir Dieu comme il faut. Non, 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 non. On a expérimenté qui il était. Nous devons nous servir de cela pour la suite. Nous devons nous servir de son Esprit Saint pour la suite. Nous devons nous servir de sa parole pour la suite. Et dans sa souveraineté, il va manifester sa gloire d'une manière visible, de sorte que nous vivons des cycles comme ça. Gloire visible, une sorte d'apaisement. Gloire visible, apaisement. Mais la différence, si nous lui appartenons, c'est que nous serons constamment forts, constamment en paix, constamment joyeux, comme les apôtres l'étaient dans les prisons. Ils étaient joyeux, ils célébraient Dieu. Et puis, Dieu faisait aussi des exploits. Ils étaient joyeux, ils célébraient Dieu. Ensuite, on les tapait, on les arrêtait. Ils étaient joyeux, ils célébraient, ils étaient toujours forts, tout en vivant des états apparents différents. Mais puisqu'ils appartenaient au Seigneur, ils étaient toujours bien, heureux et forts. Nous, nous voulons que des états apparents, puissants, glorieux, pour pouvoir célébrer et glorifier Dieu. Dieu dit non, ça c'est, vous ne m'appartenez pas, vous avez votre logique. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est ça que Dieu attend. Il n'attend pas la vie religieuse. Il attend la nouvelle naissance et il explique tout simplement la nouvelle naissance par un miracle qui vient de lui, qui fait que désormais, ta vie est portée par lui, dirigée par lui. Et vous savez, même les histoires de péché, pourquoi on n'arrive pas à vaincre le péché? Toujours ce problème d'appartenance. Les gens vivent comme si c'est à eux de vaincre le péché pour venir après se présenter devant Dieu. Mais Dieu dit, mais non, laisse-moi disposer de ta vie. Vous allez vous rendre compte de ce que Jean dit dans 1 Jean 3,9. Hein. Jean le dit dans 1 Jean 3,9, il dit, celui qui est de Dieu ne pêche point. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase? Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut jamais pécher. Il dit que celui qui appartient à Dieu, parce que c'est le mot appartenance qui fait problème. Les gens ont accepté Dieu officiellement, mais ils n'appartiennent pas tous à Dieu. Et on le voit par leur comportement, ils veulent vaincre le péché, après venir se présenter devant Dieu. Ah, j'ai vaincu le péché, hein. Maintenant je suis élu, je peux venir à l'église, je peux parler de Dieu. Mais Dieu dit, mais non. Moi, je vous demande de vous disposer pour moi. Me laissez plutôt disposer de vos vies. Et vous allez vous rendre compte. Donc, ça sera une constatation. Vous allez vous rendre compte que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Ça sera une constatation. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous battre? Et puis, quand vous aurez pensé avoir vaincu le péché, c'est là que vous venez me voir. Ce cycle-là ne fait que perdurer. Laissez-vous à ma disposition. C'est là que vous serez vainqueur. Vous allez vous rendre compte que voilà, le Seigneur est en train d'agir, est en train de t'éviter des obstacles, est en train de t'éviter des erreurs. Tu pensais tomber demain, mais tu ne tombes pas. Parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie de beaucoup de personnes n'est plus entre les mains du Seigneur. Ils font leur vie et ils veulent se présenter au Seigneur comme étant bon, pur. Le Seigneur dit, mais non, vous faites l'inverse. Laissez-moi gérer vos vies et vous serez vainqueurs du péché. Laissez-moi gérer vos vies et vous ne ferez pas d'erreur. Beaucoup de gens me disent à l'église, mais parce que comment savoir la volonté de Dieu, c'est compliqué. Mais c'est toujours le problème de l'appartenance. Quand on appartient à Dieu, Dieu nous parle clairement. Tout devient clair. Au fait, c'est ce problème-là de si vous ne me laissez pas gérer vos vies, je vais utiliser des pierres. Et ils se laisseront faire. L'âne s'est laissé faire. C'est ça le problème. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il a décidé de partager sa gloire avec nous. De vivre sa gloire avec nous. De nous faire participer plutôt à sa gloire. Il a décidé de nous faire participer à sa gloire. C'est nous qui sommes honorés. Alors, laissons nous naître de nouveau. Laissons l'Esprit prendre la place totale dans nos vies. Mettons les raisonnements humains de côté et laissons l'Esprit prendre toute la place. Il mérite cela parce que c'est lui qui nous a créés. C'est logique. Il nous a créés. Il mérite de nous gérer. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La monnaie aux finances de ce monde, l'image de Dieu que nous sommes, à Dieu. Rendons à Dieu ce que nous lui avons pris par nos raisonnements, par nos logiques, par notre intelligence. Rendons cela à Dieu. Disons à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je te laisse gérer ma vie et je veux être un instrument qui va servir pour la manifestation de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous venons te dire pardon d'avoir voulu gérer nos vies par nous-mêmes pour te les présenter comme de bonnes vies. Nous te demandons pardon d'avoir cru qu'il suffisait qu'on accomplisse certains articles de ta loi pour être en accord avec toi. Nous réalisons, Seigneur, que ce que tu attends de nous, c'est que nous soyons des caisses de résonance qui t'appartiennent totalement, qui vont résonner la musique que tu as dans ta pensée par le souffle de l'Esprit. Manifeste-toi, Seigneur, afin que nous te laissions faire. Que nous arrêtions d'agir par notre logique, par notre intelligence, mais qu'on te laisse jouer la musique sur nous, Seigneur. Ta musique à toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous créer de nouveau, afin que nous t'appartenions et nous sommes sûrs que tu glorifieras ton nom. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.